Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le 17 mars 2022, c'est la Saint-Patrick. Donc bonne fête de la Saint-Patrick à tous les gens qui ont des origines irlandaises. Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous présenter ce programme en français sur Radio SBS. Et Marianne, bonjour déjà.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Un programme assez fourni aujourd'hui.
Ouais, un programme fourni. Donc c'est le 22e jour de la guerre en Ukraine. Donc le journal va largement être consacré à cette guerre, mais pas que, vous allez le voir. Ensuite, il y aura le journal des sports que vous nous avez concocté, Christophe. Et puis, comme chaque jeudi, c'est la chronique écho.
Chronique écho avec, vous allez voir, un café qui pourrait être très 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 cher dans les mois à venir. On verra tout ça un peu dans le reste du programme. On va passer au journal maintenant.
À la une de l'actualité de ce jeudi 17 mars 2022, donc 22e jour de guerre en Ukraine, le théâtre de Mariupol abritant des centaines de civils dont des enfants a été bombardé par l'armée russe. Joe Biden qui qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre. Volodymyr Zelensky ovationné devant le Congrès américain et qui obtient 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire de la part de Washington. Et enfin Emmanuel Macron, le candidat et non pas le président, qui va présenter aujourd'hui sa ligne politique pour un éventuel second mandat.
Alors vous nous le disiez en titre, Marianne, 22e jour de guerre en Ukraine, ça commence à faire. Les combats continuent à faire rage et il est toujours impossible d'établir un bilan précis du nombre de victimes.
Plus de 3 semaines d'offensive russe et la capitale Kiev résiste encore mais vacille sous les frappes. Ailleurs dans le pays, les bombardements s'intensifient, notamment dans 2 villes dont on ne connaît maintenant que trop bien le nom, Kharkiv et Mariupol. Et Mariupol, justement, cette ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, eh bien le théâtre de la ville dans laquelle étaient abrités des centaines de civils a été pris pour cible. Aucun bilan n'a pour l'heure été communiqué, mais pour rajouter encore un peu plus à l'horreur, eh bien, on peut voir sur les images satellites qui ont été diffusées que le mot « enfant » était écrit en russe devant et derrière le théâtre. Le but était de signaler leur présence aux pilotes de chasse russes, mais bon, rien n'y a fait. On fait le point sur place avec Anne Cantener.
L'armée russe a bombardé le centre de la ville et les tirs ont détruit toute une partie du Drama Theater, le grand théâtre de Mariupol qui domine une immense place au cœur de la ville. Le grand théâtre devant lequel on installe le sapin de Noël au moment des fêtes de fin d'année. La façade du bâtiment blanc et ses colonnes sont encore debout, mais le reste du théâtre est à terre. Et la plus grande inquiétude plane sur le sort des civils qui s'y abritaient. Selon les autorités, 1 millier de personnes, dont des familles avec des enfants, occupaient le théâtre lorsqu'il a été bombardé. Pour l'instant, la municipalité ne donne aucun bilan de l'attaque. L'entrée de l'abri anti-bombe est bloquée par des gravats, écrit ce soir le gouverneur de la région de Donetsk. Il affirme également que les frappes russes ont touché une piscine de Mariupol dans laquelle des femmes et des enfants avaient trouvé refuge.
C'était Anne Cantener donc pour RFI. Au total, plus de 2000 personnes sont décédées dans cette seule ville de Mariupol depuis l'arrivée des troupes russes, selon les autorités locales. Dans une tentative toujours désespérée, d'ailleurs, on va passer maintenant à ça, le président ukrainien qui s'est exprimé hier en visioconférence, c'était devant le Congrès américain, Marianne.
Volodymyr Zelensky, il s'est adressé directement au président. Il a exhorté Joe Biden à, je cite, se comporter en leader de la paix dans le monde. Volodymyr Zelensky qui a également demandé aux États-Unis plus d'aide et davantage d'armement, tout en invitant les parlementaires à se souvenir de l'attaque de Pearl Harbor, c'était en 1941, ou encore des attentats du 11 septembre 2001. On écoute le président ukrainien.
Notre État en fait l'expérience au quotidien, toutes les nuits, depuis 3 semaines maintenant dans diverses villes ukrainiennes. Odessa et Kharkiv, Tcherniv et Soumy, Jytomyr et Lviv, Mariupol et Dnipro, La Russie a transformé le ciel ukrainien en source de mort pour des milliers de personnes. Les troupes russes ont déjà tiré près d'un millier de missiles sur l'Ukraine et ont envoyé d'innombrables bombes. Ils utilisent des drones pour tuer plus. C'est une terreur que l'Europe n'a pas connue depuis plus de 80 ans. Et nous demandons une réponse du monde à cette terreur. Est-ce trop demandé ? Créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, c'est sauver des gens. Mettez en place une zone d'exclusion aérienne humanitaire. Créez les conditions dans lesquelles la Russie ne pourra plus terroriser nos villes paisibles jour et nuit.
C'était Volodymyr Zelensky, donc le président de l'Ukraine.
Et si les Occidentaux en refusent toujours d'établir la zone d'exclusion aérienne que Volodymyr Zelensky demande sans cesse, eh bien Joe Biden a tout de même annoncé une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars. Alors 800 millions de dollars, ça vient s'ajouter à déjà une aide militaire, donc ça correspond à une enveloppe sans précédent d'un milliard de dollars en une seule semaine. Écoutez le président américain.
What's at stake here? Are the principles that the United States and the United Nations across the world stand for. It's about freedom. It's about the right of people to determine their own future. It's about making sure Ukraine will never be a victory for Putin, no matter what advances he makes on the battlefield. And together with our allies and partners, we will keep up the pressure on Putin's crumbling economy, isolating him on the global stage. That's our goal. Make Putin pay the price, weaken his position, while strengthening the hand of the Ukrainians on the battlefield and at the negotiating table.
Ouais, c'était donc Joe Biden, hein, vous venez de l'entendre, qui veut bel et bien maintenir la pression contre Vladimir Poutine.
Et Joe Biden, qui a également et pour la première fois qualifié son homologue russe de criminel de guerre, des mots assez puissants, pas plus de précision de la part du président américain. Il répondait simplement à une journaliste qui l'interrogeait alors qu'il quittait la Maison Blanche. Réaction immédiate du Kremlin, bien sûr, qui juge, je cite, cette rhétorique inacceptable et impardonnable. Et de son côté, le président russe s'est à nouveau adressé à la télévision nationale. L'opération militaire est selon lui un succès, même si elle vise non plus seulement des soldats mais également les civils. Et Moscou ne laissera pas ce pays devenir une tête de pont pour des actions agressives contre la Russie. Fin de citation, bien sûr. Vladimir Poutine qui compare l'avalanche de sanctions qui touchent la Russie aux persécutions antisémites des années 30. On écoute le président russe.
In many Western countries, people just because they come from Russia are subjected to real bullying today. They are denied medical care, their children are expelled from schools, their parents are deprived of jobs, they ban Russian music, culture, literature, trying to cancel Russia. The West tore off its mask of decency, began to act boorishly, demonstrated its true nature. It just suggests direct analogies with the anti-Semitic programs that the Nazis did in Germany in 1930s of the last century.
Les propos traduits donc de Vladimir Poutine, qui l'a dit d'ailleurs, la Cour de justice internationale vient d'ordonner de suspendre son opération militaire en Ukraine.
Cette cour de l'ONU chargée de régler les différends entre États avait été saisie par Kiev en urgence quelques jours seulement après le début de l'invasion. Alors cette cour n'a cependant aucun moyen de faire appliquer ses décisions.
Oui, tout à fait. Alors vous avez tous sûrement vu cette image d'un journaliste russe brandissant un panneau contre l'invasion en Ukraine en plein journal de télévision de la chaîne d'État.
Ouais, une journaliste, elle s'appelle Marina Ovsyannikova, elle a été arrêtée puis retenue durant 14 heures par les autorités russes. Elle travaille pour la chaîne, elle est éditrice dans la chaîne dans laquelle elle a brandi ce panneau. Elle explique son geste, on l'écoute.
It was my own anti-war decision. Yeah, I made this decision by myself because I don't like Russia started this invasion and it was really terrible. I think it's not surprised because I have two children and they live with me. It's not surprise.
Un geste totalement assumé par cette journaliste russe Marina Ovsyannikova. Elle vient de refuser l'offre d'asile de la part de la France. Un refus car, dit-elle, elle ne veut pas quitter son pays.
Allez, direction la France maintenant. Le pays fait face également aux conséquences de la guerre en Ukraine. Le gouvernement a présenté un plan de résilience, Marianne.
En France, comme dans beaucoup d'autres pays, d'ailleurs, les conséquences de cette guerre sont bien présentes et dans le portefeuille, notamment avec la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, faire ses courses, faire le plein, eh bien, tout ça coûte plus cher au quotidien. Le plan de résilience est en préparation depuis le début de l'invasion russe il y a 3 semaines. Son but est d'aider financièrement les entreprises et les ménages, et ce, le plus vite possible. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui a détaillé les mesures hier. On fait le point avec Altine Lazage pour RFI.
Jean Castex a annoncé que l'État prendra en charge une part des surcoûts des entreprises très consommatrices d'énergie. Cette aide bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent au moins 3% de leur chiffre d'affaires et qui pourraient également avoir des pertes en 2022. Des mesures spécifiques sont prévues aussi pour les pêcheurs. Ces derniers bénéficieront d'une aide financière exceptionnelle qui sera équivalente à 35 centimes par litre de gazole jusqu'à fin juillet. Cela permettra aux pêcheurs de repartir en mer. Les dépenses de carburant représentent parfois plus des 2/3 de leur charge. Le gouvernement va par ailleurs aider également le secteur agricole. Une enveloppe de 400 millions d'euros sera par exemple consacrée aux éleveurs qui font face à l'envolée du coût de l'alimentation des animaux. L'exécutif va aussi remobiliser des aides qui ont fait leur preuve pendant la crise sanitaire. Prêts garantis par l'État, report de charges ou encore activité partielle.
Et c'était Altine Lazage pour RFI. Toujours en France, Emmanuel Macron va dévoiler aujourd'hui son projet politique pour la présidentielle.
Le premier tour de la présidentielle, c'est déjà dans 3 semaines et demie. Et Emmanuel Macron, le candidat, toujours pas le président, va se rendre cet après-midi au Doc de Paris, dans le nord de la capitale. Il va répondre aux questions des journalistes afin de présenter sa vision pour un éventuel second quinquennat. Une allocution qui devrait durer plusieurs heures. On table sur 4 heures potentiellement. Et ce sera une conférence de presse, puisque, on le rappelle, l'actuel président français Emmanuel Macron a refusé de débattre avec les autres candidats avant le premier tour de la présidentielle. Les explications, Valérie Gasse pour RFI.
Cette conférence de presse est censée être un moment fort de la campagne d'Emmanuel Macron. Après avoir lancé dans le débat quelques mesures, suppression de la taxe audiovisuelle, report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, le président candidat doit expliquer l'architecture générale de son projet et dire pourquoi il brigue un second mandat, déclare un cadre de la campagne, et surtout montrer qu'il reste un réformateur après 5 ans de pouvoir. Même s'il a vieilli et sera moins clivant dans un second quinquennat, il va rester dans une logique de transformation en profondeur, veut croire un artisan de la campagne de 2017, quand un haut responsable de la majorité qui a eu accès au programme affirme qu'Emmanuel Macron sera cohérent avec l'esprit de 2017 sur l'émancipation et le dépassement, retrouver l'essence disruptive du macronisme originel et en même temps mettre en valeur son expérience de président, incarner la protection et en même temps présenter une vision de société désirable, optimiste, dixit un proche. C'est tout l'enjeu pour Emmanuel Macron dans une campagne éclair où ses adversaires l'accusent d'esquiver le débat.
C'était Valérie Rigas pour RFI. On pourrait le croire que, bien que c'est parti, mais il y a toujours une pandémie qui est là, Marianne.
Ouais, on va juste en dire un mot, mais l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a tiré la sonnette d'alarme à nouveau. Après plus d'un mois de baisse de cas généralisés à l'échelle mondiale, on soufflait un petit peu. Et bien apparemment, on assiste à une résurgence d'infections, notamment en Asie. L'OMS blâme le variant Omicron, bien sûr, mais aussi le fait que de nombreux pays aient allégé les restrictions sanitaires. L'OMS qui pointe également du doigt la baisse du nombre de tests PCR effectués chaque jour.
Ouais, il est 13h13, vous écoutez le programme en français, le journal en français sur Radio SBS. Allez, une bonne nouvelle. Maintenant, 2 anglo-iraniennes qui ont été libérées par Téhéran et vont pouvoir donc rentrer au Royaume-Uni.
Oui, elles s'appellent Nazanin Zaghari Ratcliffe et Anousheh Chachouri. Elles étaient détenues depuis plusieurs années en Iran, 6 ans pour la première, 5 ans pour la deuxième. Alors, si l'on revient sur les faits, eh bien Nazanin Zaghari Ratcliffe, elle était directrice de projet pour la fondation Thomson Reuters et elle a été arrêtée à l'aéroport de Téhéran en 2016. On lui reprochait de vouloir renverser les autorités iraniennes, c'est ce que sa famille et son employeur ont toujours démenti depuis 6 ans. Elle a purgé sa peine de 5 ans en prison. Puis l'année dernière, en avril, elle a été condamnée à une peine d'un an supplémentaire pour propagande contre la République islamique. Cette peine d'un an, elle l'a effectuée à domicile, mais en Iran. Elle vient d'être libérée. Elle va pouvoir rentrer au Royaume-Uni. Son mari et sa fille l'attendent maintenant à la maison. On écoute son mari.
There's a recovery process. You can't get back the time that's gone. That's a fact. But we live in the future, not in the past. So you know, we'll take it one day at a time. Homecoming is a journey, not an arrival. I don't think it will just be today. There'll be a whole process, and hopefully we'll look back in years to come and be a normal family. And you know, this will be a chapter in our lives, but there are many more chapters to come.
Allez, on quitte l'Iran en direction le Japon. Il y a eu un violent séisme, une magnitude assez élevée, 7,3 sur l'échelle de Richter. Ça a secoué tout l'est du pays.
Ça a même provoqué un petit tsunami. Deux personnes sont décédées, plus d'une centaine blessées. Plus de 2 millions de foyers ont été privés d'électricité, notamment dans la capitale, à Tokyo. Les autorités vérifient encore l'étendue des dégâts et elles invitent la population à rester très vigilante. Il pourrait y avoir d'éventuelles répliques dans les prochains jours. Écoutez.
Please be vigilant for earthquakes with shaking intensity scale of 6 or higher over the next week. In particular, strong quakes often occur 2 or 3 days after the previous earthquake.
Retour en Australie, le gouvernement Morrison qui va dépenser $500 million pour la construction d'un barrage, le barrage d'Urana, c'est dans le Queensland.
Ouais, 483 millions de dollars précisément, c'est l'annonce faite par le vice-premier ministre Barnaby Joyce, une enveloppe qui est déjà vivement critiquée. Les Verts accusent le gouvernement fédéral de contredire ses propres engagements écologiques.
It's crazy to see that the Deputy Prime Minister has been allowed loose to spruik this type of project, to give $500 million to his mates in the coal industry. And it does beg the question, is this something that the National Party's donors have asked for? Why is Barnaby Joyce being allowed to deliver this type of money? And it makes a mockery of the government's climate commitments, and it makes a mockery of the government's upcoming budget.
Et c'était Sarah Antonyong, la sénatrice écologiste, le premier de Nouvelle-Galles du Sud qui lui aussi a fait une annonce.
Oui, alors là, on ne parle pas du tout de politique. Hein. Dominique Perrottet est un heureux papa depuis hier soir.
Encore une fois.
Oui, alors encore une fois, et puis deux fois, trois fois, même sept fois. Sa femme Hélène vient de donner naissance à une fille, hein, Céleste Grace. Et donc, on le disait, sept fois que Dominique Perrottet est papa. Il a déjà 5 autres filles et un garçon. Il nous apprend sur son compte Instagram que sa femme et sa petite fille vont bien. Vous voulez faire encore 5 enfants, Christophe ?
Non, ça va aller, merci. Allez, un point sur la météo pour aujourd'hui.
Il va faire grand soleil, il fait grand soleil à Perth, 32 degrés, 29 degrés à Adélaïde, du soleil également. À Melbourne, pour le moment, il fait plutôt beau, mais on va sûrement avoir des averses, 29 degrés. Des averses également à Hobart, 27 degrés, 25 à Canberra, 27 à Sydney, 30 à Brisbane, 31 à Cairns, il va pleuvoir ou il pleut peut-être déjà, et 33 degrés à Darwin. Le rappel des titres de ce jeudi 17 mars, 22e jour de guerre en Ukraine et le théâtre de Mariupol pris pour cible. Il y avait des centaines de civils à l'intérieur. Joe Biden qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a obtenu de la part de Washington 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire.
Programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal qu'on a présenté avec Christophe Mallet. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, les sports que vous avez préparés, hein, Christophe. Et c'est peut-être pas l'actualité principale de votre journal, mais moi je tiens à dire que Lewis Hamilton, qui change son nom de famille pour honorer sa mère, bah, ça me fait très plaisir.
Journal des sports, et on commence avec du football et la Ligue des Champions. On connaît maintenant les deux derniers qualifiés. Ce sera donc le Villarreal et Chelsea, les Anglais, beaucoup trop forts pour les Lillois. Il y a quelques minutes, les Anglais donc, qui s'imposent sur le terrain lillois. Cédric De Oliveira.
Oui, logique, la marche était trop haute pour Lille. Battu donc par Chelsea 2-1. Chelsea beaucoup trop fort que les Lillois. Les Lillois qui avaient pourtant commencé par le bon bout cette équipe. Et vous entendez les supporters de Chelsea qui sont toujours au stade Pierre-Mauroy qui célèbrent cette qualification. mais les Lillois qui avaient pourtant marqué les premiers sur un penalty du Turc Burak Yılmaz, il y avait 1-0, l'exploit était en marche, mais derrière, eh bien Chelsea a fait parler sa classe. Pulisic a égalisé sur un magnifique service de Jorginho, il y avait un partout à la pause, et les Blues, eh bien, qui ont fini par prendre le dessus sur Lille en seconde période grâce à leur capitaine César Azpilicueta. Ça fait donc une victoire 2-1 après la victoire 2-0 au match aller. Eh bien, Chelsea jouera bien les quarts de finale. Et les récentes sanctions par rapport à leur propriétaire Roman Abramovich n'ont pas l'air de perturber les joueurs pour Lille. Eh bien, c'est l'élimination aux portes des quarts de finale.
Voilà donc pour le football. Allez, on continue notre tour d'horizon du sport et on débute avec la saison de 2022, très attendue cette saison avec énormément de changements techniques. Saison très attendue par le public, mais également par les pilotes. On écoute Lewis Hamilton.
It's impossible to know what the future holds and what it would feel like. But doing something that no one else has done, of course, would be mind-blowing. And I know it would mean so much to all of us that go through all these different emotions through the year, those that you that are on the road with me, and whether you're at home or at the racetrack, you're there with me in the car, and I'm carrying you with me, and still I rise, right? So, yeah. But it would mean the world to my family. It would mean for me knowing that, for example, I'm really proud of my family's name, Hamilton. None of you might know that my mum's name is LeBallastier, and I'm just about to put that in my name. Because wow. I don't really fully understand the whole idea when people get married, then the woman loses her name. And my mom, I really want her name to continue on with the Hamilton name, so.
Donc Lewis Hamilton, allez, on va maintenant faire une page sport politique avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, il y a des sportifs qui font des actions, comme Andriy Shevchenko, qui est un ancien joueur donc international ukrainien. Il a joué au Milan AC, il a également joué à Chelsea. Eh bien, il a lancé une nouvelle campagne pour le monde du football. Il veut lever 1 million de livres sterling pour aider les gens, les populations qui sont restées en Ukraine. On l'écoute.
The war is very cruel. And then it's hard to see the city been destroyed, the people been dying. But I'm father of 4 kids, and for me to see images of kids been dying, the bombs going, and then kids hospital, I can't stand for that. I don't think that any person in the world can stand for that. The sport in general have incredible power, and then football society, football in generally, is send very strong message. We want the peace, and then also, I know it's very important to people who now is in Ukraine, to people who is in the front line to defend the country. It's very important to feel that support. It's a very difficult moment for me. You know, in the moment I don't think about football. My head, my old attention to help my country.
Andriy Shevchenko, donc, c'était une interview sur la BBC. On parle maintenant de basket et le cas de cette joueuse américaine, Brittney Griner, qui joue normalement en Russie, elle joue à Ekaterinburg. Eh bien, elle a été arrêtée à l'aéroport de Moscou, un des aéroports de Moscou, avec apparemment des cartouches de cigarettes électroniques contenant de l'huile de cannabis, ce qu'elle réfute. Mais ça met un coup de projecteur sur la situation de certains de ces sportifs bloqués à la croisée des chemins, donc dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. On écoute le porte-parole de la WNBA, la ligue de basket féminin américain, Ned Price.
We discussed this on Friday, I believe it was. Our team at our embassy in Moscow continues to provide all forms of appropriate support to Americans who are detained in Moscow. We last had consular access to Paul Whelan and Trevor Reed late last year. Whenever an American is detained anywhere around the world, and that includes Russia, we stand ready to provide all appropriate assistance. The same, of course, is true of Ms. Griner. We have been following this case very closely, working through multiple channels to provide all appropriate support, but not in a position to offer further details on that. Yes.
Et on finit ce journal des sports avec les Jeux méditerranéens qui devraient avoir lieu cette année à Oran. On écoute Davide Tizzano qui était reçu par la présidence algérienne. Davide Tizzano, c'est le président du comité d'organisation des Jeux méditerranéens.
The time that we have here in Algeria, a big thanks to the President of the Republic for giving me the opportunity to stay here to, and do the personal meeting with him. It's a pleasure to represent to 25 nations of our committee for the next Mediterranean Games in Oran. For us, it's a big opportunity to go back in the south with the games, and I hope that these games will be a big, big opportunity for the Algerian to offer a wonderful, wonderful view for the wonderful nation and wonderful people.
Davide Tizzano, donc. Et voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
C'était Que tous dansent de Noé Préchaud. Bon, si vous êtes des réguliers de l'émission, vous vous rendrez compte que c'est quand même déjà la troisième fois que je passe cette chanson. C'est un peu mon obsession en ce moment, ma chanson préférée du moment. Donc, si vous en avez marre et que vous voulez qu'on change la playlist, n'hésitez pas à nous le dire. On est jeudi et comme chaque jeudi, c'est maintenant la chronique économie. Christophe vous le disait en sommaire, on va parler du café et d'un café qui coûte de plus en plus cher. Restez sur SBS France.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Allez, comme chaque semaine, chaque jeudi, on va faire un point sur l'actualité économique en Australie avec Nicolas Purpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Alors aujourd'hui, on a deux gros sujets. Un d'ailleurs qui va sûrement fâcher pas mal d'Australiens, mais on va y venir dans quelques instants. Le second, c'est des associations caritatives qui se plaignent de la hausse du prix du pétrole. Et surtout, ce message, on commence vraiment à voir la pression eh bien, sur les budgets des ménages, tout simplement.
Oui, tout à fait. C'est pas étonnant parce que là, bon, le prix du pétrole maintenant en moyenne est bien plus que 2 dollars autour du pays. Et donc, si on calcule ça, pour quelqu'un qui conduit en général pour aller au travail, même un peu comme tout le monde, ça va leur coûter à peu près 660 dollars de plus comparé à l'année dernière, cette année. Et si le prix du pétrole monte à 2,20 dollars pour chaque litre d'essence, unleaded, ça va coûter 900 dollars de plus que l'année d'avant. Et ça continue à monter. Donc, et on ne sait pas à quel point le prix de l'essence va arrêter de monter, comme on voit là. Donc, il y a des agences caritatives un peu partout en Australie, comme par exemple Anglicare et aussi Food Bank. Et eux, ils disent que déjà, il y a des gens qui viennent et qui disent là, ça met vraiment beaucoup de pression sur notre budget. C'est des gens qui ont du mal. Et donc, ils viennent voir ces agences caritatives pour de l'aide, pour de la nourriture même. Et là, maintenant, ils disent, je n'ai pas assez d'argent pour remplir ma voiture. Donc, je dois faire le choix entre la nourriture et l'essence. Donc, c'est quand même quelque chose, on n'a pas l'habitude d'entendre des choses comme ça ici en Australie, une telle pression comme ça. Et même d'autres gens qui sont pas dans une situation aussi grave qui disent que oui, ça commence à devenir vraiment très cher pour faire le plein d'essence et ils se posent des questions. Maintenant, ils voient s'ils ne peuvent pas prendre un vélo, pas prendre un bus, un train au lieu de prendre la voiture. J'ai aussi parlé avec un tradie. Donc, c'est un homme qui a son propre business, il fait des portails. Et donc, il voyage d'un bout de Perth à l'autre. Il me dit qu'il fait entre 3000 et 4000 kilomètres chaque semaine. Et donc, il doit faire le plein d'essence tous les 2-3 jours. Et avant, ça lui coûtait $85 pour faire le plein. Maintenant, c'est 100, 105, même plus que ça. Donc, pour lui, ça commence à coûter vraiment très, très cher. Il est obligé de monter les prix de son travail, de son business. Donc, c'est les clients qui, maintenant, vont payer ça. Donc, on voit un peu partout dans la société des gens qui commencent à dire que là, c'est, ça rigole plus. C'est vraiment assez sérieux, ce problème. Et, mais vraiment, pour les gens qui sont déjà en difficulté, qui ont déjà pas mal de pression sur leur budget familial, quand ils se posent la question, est-ce que je dois acheter de la nourriture ou faire le plein d'essence, c'est sérieux ça.
Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que ça va même au-delà, hein, comme vous le dites, la hausse des prix, l'inflation, elle est là, elle est réellement là. C'est une des premières fois depuis les années 80, parce qu'on sent que les prix de tout, puisqu'on met de l'essence dans tout pour transporter, il faut des camions pour transporter les aliments au magasin. Donc voilà, ça, voilà, ça a vraiment un impact un peu
entendu,
loin.
Oui, tout à fait. Et j'ai entendu le PDG de la compagnie SPC. Donc c'est eux qui font les boîtes de conserve pour les spaghettis
à Shepperton,
dans les supermarchés
à Shepperton.
Pardon,
c'est une entreprise
de Shepperton.
Shepperton,
voilà. Donc il m'a dit que une boîte de spaghettis avant, ça, un canton de spaghettis avant par exemple, ça coûtait peut-être $1.70, et là il expliquait que avec le prix d'essence qui monte et le prix de transport qui monte, en plus de ça il y a le prix du métal qui est monté aussi, mais aussi le prix du blé, parce que ça c'est plus cher et ça, bon, pour faire des spaghettis, il faut un peu de blé, et donc il a expliqué que ça va monter par peut-être 40 ou 50 centimes, donc de monter de $1.70 à peu près à $2.10, $2.20, ce qui est énorme quand même.
C'est énorme.
Ouais.
Bon, parlons des choses qui fâchent maintenant. Apparemment, il y a une nouvelle très sérieuse, le prix du café pourrait également augmenter. Ça va pas faire plaisir à grand monde, hein.
Ça va pas du tout. Peut-être que les gens ont déjà remarqué que le prix d'un espresso ou un cappuccino, ça a déjà monté un petit peu, mais c'est pas la fin. Il y a une organisation qui s'appelle Cafe Owners and Barista Association of Australia. Il dit qu'on pourrait même payer $7 pour un café avant la fin de l'année. Et vraiment, ça, c'est à cause de le prix de production. Et le président de cette association, qui s'appelle David Tran, il a expliqué qu'il y a un manque de graines de café autour du monde, et en particulier qui vient du Brésil, où il y a eu des sécheresses, mais aussi des températures très très basses et même des nuits où ça avait gelé. Le pays, le Brésil, donc, a produit à peu près 50% moins de café que l'année dernière. Mais aussi, il y a d'autres choses, il y a des problèmes d'importation, il y a la guerre en Ukraine, la pandémie, en plus du prix de transportation est devenu extrêmement cher, avec le prix de l'essence qu'on vient de mentionner là. Donc, apparemment, pour faire venir du café en Australie, c'est 5 fois plus cher qu'il y a 2 ans. Et ça, c'est juste pour mettre le café dans un conteneur sur un bateau. Il y a aussi moins de conteneurs sur les bateaux. La plupart sont bloqués dans l'hémisphère du Nord. Il y en a moins qui viennent vers l'hémisphère du Sud en ce moment. Donc, apparemment, voilà, le prix d'un café, il est, selon cette association, est resté trop bas depuis beaucoup trop longtemps. Il dit que c'est à peu près $4 pour un café, ça dépend bien sûr où on l'achète, mais c'est à peu près $4 depuis plusieurs années, ça c'est déjà trop bas, donc il pense qu'en réalité le prix devrait déjà être entre 6 et $7. À $7, il pourrait bien avoir une petite révolte des buveurs de café, parce que ça devient assez cher.
Je vais revoir ma consommation, vu que j'en prends 4 par jour, ça a commencé à faire très cher. Merci.
Ah oui, quand même.
Merci Nicolas d'avoir décrypté l'actu économique pour nous cette semaine.
Merci Christophe.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales.
Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Allez, on va faire un détour cette semaine et ce mois-ci avec l'Alliance française d'Adélaïde, avec Raphaël Delaunay. Bonjour.
Bonjour Christophe, comment allez-vous?
Ça va impeccable, et puis c'est toujours un bon moment quand il y a le festival qui arrive, c'est toujours un bon signe. Bon, ça veut dire qu'il y a l'hiver qui arrive, c'est pas forcément ce qui est le mieux. Mais par contre, au niveau culturel, c'est quand même incroyable ce qui se passe en Australie.
Alors, à Adélaïde, c'est la meilleure saison. Aujourd'hui, ils annoncent plus de 30 degrés, grand ciel bleu, et c'est un festival de culture qui se...
Arrête.
Ouais, je sais. donc, effectivement, on a, à la fin de la semaine, l'Adélaïde Festival qui va démarrer et qui va notamment s'ouvrir sur le Coq d'Or, mis en scène par Barry Koski, et qui est une coproduction entre l'Adélaïde Festival et le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. C'est un partenariat qui a été signé sur 3 années, pour chaque année une coproduction entre ces deux grands festivals majeurs de la scène culturelle internationale. Et donc l'ouverture sera ce vendredi. Et puis il y a le Fringe qui a déjà démarré avec plein de spectacles francophones. Et puis il y a WOM Adélaïde, le grand festival de musique qui démarre dans une semaine.
D'accord, ça c'est vraiment, on sent que c'est vraiment le focus, hein, le coup de projecteur sur Adélaïde à ce moment de l'année, à peu près tous les ans. Est-ce qu'on peut parler du sentiment post-Covid parce qu'il y a quand même ce renouveau un petit peu à travers les autres régions. On l'a vu, hein, à Melbourne, on l'a vu aussi à Sydney, le festival, c'est vraiment un des signes post-Covid. Est-ce que c'est le même sentiment pour vous à Adélaïde, à la fois le festival du film français de l'Alliance française et le WOM Adélaïde? Ça veut dire qu'on tourne un peu la page quand même, on l'espère en tout cas.
Alors, d'un état à l'autre, évidemment, l'expérience est très différente. L'année dernière, à Adélaïde, on a eu la chance de réaliser notre meilleure année pour le French Film Festival. Et malgré le fait que les salles de cinéma étaient capées à 50%. Ce qui, pour moi, en fait, dénote vraiment un amour des Adélaïdiens pour tout ce qui est français et notamment le cinéma français. Donc, c'était vraiment une grande chance. Au niveau des festivals, cette année, la politique est un peu particulière. Pour pouvoir participer à l'Adélaïde Festival ou au WOM Adélaïde, il va falloir prouver sa vaccination. Voilà, c'est la politique de chacun de ces festivals. Mais c'est vraiment une grande chance de pouvoir assister à des spectacles qui viennent du monde entier, notamment pour l'Adélaïde Festival. Et pour ça, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une énorme chance, et Adélaïde est l'endroit où être au mois de mars.
Alors parlons un petit peu de la programmation, qu'est-ce qui vous fait vibrer sur ce festival cette année? Est-ce qu'il y a des coups de cœur spécifiques qui, pour vous, vraiment, c'est dur de dire sortent du lot, mais ouais, on va le dire quand même, est-ce qu'il y a certains films qui, pour vous, personnellement, sortent du lot?
Alors, il y en a. Pour moi, personnellement, je parlerais volontiers de La Traviata, My Brothers and I, le titre français étant Mes frères et moi, qui est un drame qui se passe dans le sud de la France. C'est un drame, mais avec beaucoup de choses positives aussi. L'histoire de plusieurs frères qui vivent ensemble et dont la maman est malade. Et chacun a sa trajectoire et un focus plus particulier sur le plus jeune de cette fratrie, qui découvre l'univers de la musique et sa voix et ce qu'il peut réaliser au travers de sa voix. En ce sens-là, c'est un rapport avec sa prof de musique, c'est un rapport dans l'évolution des relations fraternelles que je trouve vraiment très touchant.
Moi, j'en ai beaucoup entendu parler de ce film, à la fois un film poignant et touchant, ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur, en fait?
Alors, j'ai aussi en coup de cœur Entre les vagues, qui est un film de Anaïs Volpé, alors qui est aussi un drame, mais ce que je retiens beaucoup de ce film, donc c'est une histoire d'amitié entre deux filles qui veulent percer dans le théâtre. Honnêtement, la façon dont le film traite et filme leur amitié est absolument incroyable. Et ça ne peut que gonfler le cœur et amener, en sortant du film, à regarder toutes ces relations amicales et vouloir les vivre à 2000%.
Ça symbolise quand même pas mal le cinéma français quand même, quand on y réfléchit. C'est très touchant, le cinéma français, sous ces angles-là. On arrive quand même à montrer des histoires à la fois d'amour, des histoires tristes, des histoires sentimentales, juste un tout petit peu différemment, en fait.
Oui, alors c'est toujours partagé de beaucoup d'émotions. Il faut avouer que cette année, dans l'ensemble de la sélection, il y a beaucoup de films qui sont très forts, qui sont plutôt catégorisés dans les drames. Mais pour chacun d'eux, je trouve quelque chose de positif qui en ressort aussi au travers de drames et d'histoires tragiques, mais qui font aussi ressortir tout ce qu'il peut y avoir de beau dans les relations humaines, et c'est ce que j'ai envie de retenir en fait dans tous ces films. C'est le cas pour ce film Entre les vagues, c'est le cas pour La Traviata, c'est le cas également pour Ouistreham, qui est un film qui parle des femmes de ménage et de la précarité en France, et avec la démarche d'une écrivaine qui veut enquêter et pouvoir mieux comprendre et mieux parler de cette partie de la vie. De la même manière, des choses extrêmement positives et très belles qui ressortent dans les relations humaines, et on peut que être touché, en tout cas, par ce film.
D'accord, allez, juste comme ça, pour terminer sur le festival en lui-même, vous nous rappelez les détails, l'ouverture, la date, le film qu'on peut voir, où on peut avoir des billets sur Adélaïde, parce que l'ouverture d'un festival, c'est quand même quelque chose de magique.
C'est magique, je vous le confirme. Pour Adélaïde, le festival va ouvrir le 24 mars. La soirée d'ouverture sera à Palace Nova East End, dans le centre-ville. Et le festival se terminera le 26 avril. Ensuite, on aura encore 2 jours, les 27 et 28, pour les films qui ont eu le plus de succès pendant le festival, pour donner l'occasion aux retardataires de se rattraper. Mais n'attendez pas, parce que on ne sait pas encore quels seront les films que l'on mettra en avant dans ces 2 dernières journées. Une chose aussi importante pour le South Australia, pour la première fois, le festival va s'étendre à la ville de Victor Harbour, au sud de la Florieux Peninsula. Ça, on est vraiment très contents. Ce sont 2 journées spéciales, le 4 et le 11 avril, avec une sélection de 4 films. Il y aura Au revoir, Monsieur Hoffman, La Traviata, Les Illusions perdues et La Brigade. 4 films dont on pense qu'effectivement, ils pourront trouver un public et un accueil très positif à Victor Harbour.
Ouais, tout à fait. Au revoir, Monsieur Hoffman, avec un incroyable, ah oui, à Daniel Auteuil, mais un incroyable Gilles Lelouch dedans, faut le dire.
Tous les acteurs, honnêtement, sont incroyables, et ce qui, je trouve, est particulièrement réussi dans ce film, c'est la façon dont les personnages évoluent. Aucun n'est linéaire, et on peut être surpris à chacun des moments du film. Ouais, et pour ça, ça donne une profondeur aux personnages et une réflexion sur cette période extrêmement sombre de l'histoire. Qui est vraiment intéressante et qui amène à s'interroger aussi sur soi-même.
Bien, absolument, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres activités, hormis Women Adelaide et le festival? C'est déjà quand même pas mal pour vous. je vais pas vous mettre un peu trop de pression, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a des cours, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Adelaide, dans la vie de tous les jours à Adelaide et à l'Alliance française?
Alors, évidemment, on est en plein dans les cours, on est au milieu du trimestre 1, donc on va doucement préparer le trimestre 2, avec, j'espère, quelques nouveaux cours qui pourront ouvrir. Pour ce trimestre-ci, peut-être quelques points d'attention. Le premier, c'est un cycle de conférences sur le cinéma français, qui sont animées par Ben McCann, qui est responsable du département du français à l'Université d'Adélaïde et qui est spécialisé sur le cinéma français, l'histoire du cinéma français. Donc, il retrace un peu l'histoire du cinéma en France et justement apporte des éclairages selon les différentes périodes et ce qui fait la spécificité du cinéma français. Donc la première conférence a déjà eu lieu, la prochaine est le 11 mars, donc la semaine prochaine, et la dernière aura lieu le 22 mars. Ben est un puits de connaissances et c'est juste passionnant de discuter avec lui autour du cinéma, et il pourra donner du coup aussi beaucoup de conseils sur la sélection de cette année. Ensuite, on est extrêmement content à l'Alliance d'Adélaïde parce que nous avons depuis plusieurs mois maintenant engagé un projet de rénovation de notre bibliothèque qui avait grand besoin de rafraîchissement. Et on va inaugurer ce nouvel espace ce week-end, ce samedi, avec un événement pour les familles. Pour les enfants, il y aura une lecture de contes d'un conte de Nouvelle-Calédonie, car nous avons eu le très généreux soutien du délégué de Nouvelle-Calédonie à l'ambassade de France, Monsieur Yves Lafoy, qui nous a permis de pouvoir acquérir un fonds spécialisé sur la Nouvelle-Calédonie pour mettre en avant cette destination sous toutes ses formes, évidemment touristiques, avec la chance depuis l'Australie qui est de l'autre côté de la France métropole, mais qui a des territoires francophones et donc la Nouvelle-Calédonie à côté, mais aussi sur des questions de culture, les cultures kanak notamment, tout ce qui est environnement, jeunesse, donc beaucoup de thématiques qui sont abordées au travers de ce nouveau fonds qui est désormais disponible à l'Alliance d'Adélaïde. Mmh. Et puis on va organiser une grande donation des livres que nous ne conservons pas dans le fonds. On est un peu limité par la place, donc on a fait des choix de livres dont on pense qu'ils sont intéressants pour nos membres et puis d'autres qu'on aura grand plaisir à offrir à tous nos membres samedi après-midi à partir de 12h30.
D'accord, bah écoutez, on vous souhaite une bonne ouverture de votre bibliothèque et puis un bon mois qui s'avance plutôt chargé devant vous. Merci Raphaël.
Merci beaucoup Christophe.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Peut-être connaissez-vous sa voix, c'est Clara Luciani avec sa chanson « Amour toujours ». Maintenant, pour l'interview qui va suivre, eh bien Christophe a rencontré Yves Lafoy. Il est le délégué de la Nouvelle-Calédonie à l'ambassade de France ici en Australie. Écoutez cette interview.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
La semaine de la francophonie, c'est vraiment une grande semaine pour les Français, mais pour le français à travers le monde. Et on est avec Monsieur Lafoy. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Toujours un bel accent du Sud, malgré que vous soyez représentant pour la Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est vrai. Je suis originaire du Pays Basque, en fait. Mais ça fait 30 ans que je suis dans le Pacifique. Enfin, je suis venu dans le Pacifique parce que j'avais un sujet de thèse sur les géosciences marines dans la région Pacifique. Je suis arrivé il y a 35 ans et je ne suis jamais reparti, en fait.
On s'y sent bien. Hein. Cette francophonie, pour vous, elle veut dire quoi? Parce que ça rayonne à travers le Pacifique, ça rayonne à travers le monde. En 88 pays membres de la francophonie, il y a plein de pays amis également. Ça veut dire quoi cette francophonie? Parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même le fer de lance de la francophonie, du français, à travers tout le Pacifique.
Oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai que la francophonie, pour moi, c'est le multiculturalisme. Ça veut dire écouter la différence de l'autre, respecter la différence de l'autre. Et c'est vrai qu'à travers le français, la langue française, on véhicule les valeurs de la langue elle-même, mais surtout des cultures. Et je ne dis pas une, mais des cultures, puisque chaque pays francophone a sa culture. On a des ambassadeurs d'Algérie ici, on a des ambassadeurs du Liban. Enfin, tous ont une histoire différente de l'histoire française pure et dure. Et donc nous, en Nouvelle-Calédonie, en tant que représentants de la Nouvelle-Calédonie en Australie, c'est vrai qu'on utilise cette plateforme pour véhiculer des valeurs françaises en premier lieu, bien sûr, mais aussi des valeurs océaniennes et calédoniennes qui sont encore plus spécifiques.
Mais même si on se focalise sur la francophonie en Nouvelle-Calédonie, c'est pareil, bon, il y a le français, il y a tout un tas de dialectes, de langues locales également, mais la francophonie, ça semble être quand même le lien qui est un peu par rapport à toutes les îles de Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait. Alors en fait, effectivement, il y a 28 langues vernaculaires. Ce n'est pas des dialectes, ce sont des langues vernaculaires en Nouvelle-Calédonie. En fait, quasiment chaque tribu dans chaque vallée de Nouvelle-Calédonie a sa langue vernaculaire. Et en fait, le français est la langue, avec le bichlamar aussi, qui a été importé des Nouvelles-Hébrides, l'ex-Vanuatu, enfin le nouveau Vanuatu, pardon. Le français a été la langue de communication de toutes ces tribus dans différentes vallées. Et c'est vrai que en Calédonie, on a deux droits. On a le droit français, on a le droit commun, par contre, et le droit coutumier. Et on voit que beaucoup de locaux ou de locales, de femmes notamment, je préfère choisir le droit français plutôt que le droit coutumier, parce que c'est vrai que ça ouvre beaucoup sur le reste du monde.
Allez, petite dernière question, la Nouvelle-Calédonie, ça a été un peu, pas compliqué, mais ça a été, on va dire, un petit peu tendu ces derniers temps avec le référendum, etc. On en est où? On a un peu tourné la page maintenant. Comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie sur le terrain aujourd'hui?
Alors, effectivement, en ce moment, je ne dirais pas qu'on a tourné la page, mais bon, la première chose à signaler, c'est que le troisième et dernier référendum, le résultat s'est passé dans le calme. On craignait qu'il puisse y avoir des manifestations violentes. Donc ça, c'est la première leçon à tirer. La deuxième leçon à tirer, c'est que la Calédonie restera française, mais je dirais tout reste à faire, c'est-à-dire qu'on a une page blanche devant nous. Quand je dis nous, ce sont les partis pro-français et pro-indépendance, et on a une copie à rendre en juin 2023, c'est-à-dire le fameux référendum de projet. Mais pour l'instant, toutes les discussions sur ce futur institutionnel sont bloquées tant que le président français n'est pas réélu, ce que les indépendantistes ont posé comme condition de renouer le dialogue quand les élections présidentielles françaises auront été terminées. À ce moment-là, ils réenclencheront les discussions avec le nouveau président français.
Vous avez un peu de pain sur la planche.
On a du travail, effectivement, on a du travail. Mais encore une fois, je pense que ce qui est très positif, c'est qu'il faut respecter, je dirais, le gagnant et le perdant des trois référendums et surtout pas jouer et provoquer les gens. Donc respect, humilité et puis travail, effectivement.
Monsieur Lafoy, merci.
Merci à vous, Christophe. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
C'était Yves Lafoy, délégué Nouvelle-Calédonie à l'ambassade de France ici en Australie, interviewé par Christophe. Il est 13h57 sur SBS French, l'heure du rappel des titres. C'est le 22e jour de la guerre en Ukraine et le théâtre de Mariupol, abritant des centaines de civils dont des enfants, a été bombardé par l'armée russe. Joe Biden qui qualifie Vladimir Poutine de criminel de guerre. Volodymyr Zelensky ovationné devant le Congrès américain. Le président ukrainien obtient 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire de la part de Washington. Et enfin, Emmanuel Macron, le candidat, qui va présenter aujourd'hui sa ligne politique pour un éventuel second mandat. C'est la fin de cette édition française. Merci de l'avoir écouté. Merci de votre fidélité 4 fois par semaine. Je suis Marianne Murat. C'était comme à chaque fois un vrai bonheur de passer cette heure avec vous. Nous avons présenté l'émission ensemble avec Christophe Mallet. Christophe qui en sommaire disait que c'était la Saint-Patrick aujourd'hui. Je me dois de rebondir là-dessus parce que sinon je risque de me faire gronder. C'est la Saint-Patrick. Bonne fête à toutes les Patrick et bonne fête à mon papa qui écoute chacun de mes journaux. Et malgré le fait qu'il soit à 17 000 km de moi, papa, je pense très fort à toi. Bonne fête en ce 17 mars 2022. Vous pouvez tous retrouver ce direct en intégralité sur notre site internet, notre page Facebook SBS French, ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Music et les autres. Le prochain programme en direct, c'est samedi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.